camarade a assez duré. Allez, reprenons.
ATD Quart-Monde, au rien du tout, la nation reconnaissante.
La parole est à Madame Geneviève de Gaulle-Antonioz, rapporteure du Conseil économique et social.
Mesdames, Messieurs les députés, l'avis du Conseil économique et social que je viens présenter à votre Assemblée marque, je l'espère, le début d'une voie nouvelle pour notre démocratie.
En 1997, Geneviève de Gaulle-Antonioz portait un projet de loi sur l'égale dignité de tous, y compris des plus pauvres. Projet de loi qui a été voté l'année suivante. Est-il entré dans les faits? C'est une autre affaire. Les objectifs, en tout cas, jusqu'au vocabulaire du mouvement ATD Quart-Monde, dont Geneviève de Gaulle présidait la branche française, pénétrait dans le droit. Remonte un autre souvenir, 1987, l'inauguration d'une dalle en l'honneur des victimes de la misère au Trocadéro parvis des droits de l'homme, d'où on voit si bien la coupole du Panthéon. Le discours, cette fois, était prononcé par le père Joseph Wrzesinski, l'inspirateur d'ATD. À travers cette dalle, disait-il, l'humanité doit pouvoir se rappeler ces grands témoins de l'histoire, les humbles, les petits, les rien du tout qui, au jour le jour, essayent de vivre les valeurs qu'on ne leur a pas toujours apprises, mais que leur vie, leur cœur et leur intelligence leur ont fait découvrir. Notre proposition est donc aujourd'hui, au rien du tout, la nation reconnaissante.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Bruno Tardieu, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui, avec son épouse, depuis des décennies, vit une expérience de vie commune et de combat commun avec les militants ATD en France et aussi bien aux États-Unis. On aurait pu titrer l'émission « Louons maintenant les grands hommes » du nom d'un grand livre américain.
Ah oui, c'est le livre de James Agee, un grand poète qui avait été envoyé par un magazine dans les Appalaches, l'endroit où des anciens Européens, les pauvres d'Europe, envoyaient aux États-Unis pour travailler dans le coton, etc., s'enfuyaient et se cachaient dans les montagnes. Et donc, il y avait une misère considérable. Et James Agee est allé là-bas avec la mission d'écrire 3 pages pour un magazine. Il est revenu avec 365 pages en disant « Vous n'en coupez pas une ligne ». Il commente dans l'introduction que s'il a eu des problèmes, c'est qu'il n'y a pas été en tant qu'humanitaire ou journaliste, mais il y a été sérieusement.
Un peuple peut parler. Un peuple parle, ce sera le titre de votre prochain livre. Mais revenons à la nièce du général de Gaulle, ex du réseau du Musée de l'Homme et de Défense de la France, ex de Ravensbrück, qui en 1958 devient présidente de l'Association des déportés internés de la Résistance et comme son époux, Bernard Antonioz, est membre du cabinet du nouveau ministre des Affaires culturelles.
J'étais au cabinet de Malraux, c'était plutôt, il me semble, vers le milieu ou la fin d'octobre 58. Nous avions eu, mon mari et moi, une vieille amie qui était une femme admirable, femme du monde en même temps et d'un dévouement absolument extraordinaire, d'une bienveillance totale, qui s'appelait Madame de Brancion. Et elle a voulu nous inviter un soir à dîner avec quelqu'un qu'elle tenait absolument à nous faire rencontrer, et qui était le père Joseph Wrzesinski. Le père Joseph Wrzesinski était un homme modeste qui ne parlait pas énormément. Elle avait beaucoup de peine à le faire dire un peu dans quelles conditions il était. Mais enfin, il en a dit quand même suffisamment pour que, quand il m'a demandé de venir voir où il vivait et ce qu'il essayait de faire, j'accepte. En fait, j'avais du travail par-dessus la tête, parce que le cabinet de ministre, c'est vraiment pour une mère de famille de 4 enfants, le dernier fils n'avait pas encore 4 ans, c'était vraiment un cauchemar, une course contre la montre perpétuelle, donc je n'avais pas tellement envie de faire encore autre chose en plus, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais le droit de refuser, c'est de connaître, de savoir. On ne peut pas toujours engager une action, ce n'est pas toujours dans les moyens, nos forces humaines, elles sont limitées. Mais au moins, on doit accepter de savoir. C'est le premier pas qu'on doit faire. Alors, je suis allée là-bas. Et on n'y allait pas facilement, d'ailleurs, à l'époque. C'était à l'écart de tout. Les autobus s'arrêtaient loin. D'ailleurs, le bidonville était même pas... Il n'y avait même plus de rue. Il y avait de la terre boueuse, parce qu'il pleuvait beaucoup. Il n'y avait plus de lumière, les igloos étaient très faiblement éclairés la nuit, comme ils pouvaient eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc avec des moyens de fortune, des espèces de bougies ou de lampes. Et j'ai été très très vite frappée par les premières rencontres que j'ai faites à côté du Père Joseph. Et j'ai vu des visages humains où j'ai retrouvé quelque chose de ce que j'avais moi connu sur les visages de mes camarades de Ravensbrück. C'est-à-dire, quand on n'a plus d'espérance, quand on est tellement usé par un espèce de combat quotidien, quand on se dit qu'il peut finir que par sa propre mort, le visage reste toujours un visage d'un homme ou d'un être humain, mais il perd cette espèce de rayonnement qu'a chaque être humain comme ça en lui.
Afghanu, France Culture avec Ludovic Sellier, ce n'était certes pas Bruno Tardieu, une femme de la grande bourgeoisie qui arrivait à Noisy-le-Grand. Il faut oser cette phrase, il faut être Germaine Tillion, qui a été son amie dans Ravensbrück et maintenant sa compagne du Panthéon, pour dire de Geneviève de Gaulle ceci: à Noisy, elle était riche du capital de Ravensbrück.
Oui, il faut oser. Mais elle n'a pas tort, elle a même parfaitement raison. J'ai reparlé récemment avec Marie Jarling et Georges Jarling. Marie avait 12 ans, elle habitait le camp. Georges en avait 15, famille immigrée d'Espagne, d'Allemagne. Et on reparlait de Geneviève de Gaulle pour se préparer à toutes ces journées. Et elle disait qu'il y avait souvent des gens qui venaient au camp pour apporter quelque chose en bienfaiteur. Et Marie disait, d'emblée, je savais que cette relation ne serait pas égale et je m'y intéressais pas beaucoup. Mais avec Geneviève de Gaulle, du haut de ses 12 ans, Marie sentait que c'était différent. Elle était avec nous dans le combat. Marie dit, elle n'était pas de chez nous, mais elle était avec nous dans le combat. Et je crois que Geneviève de Gaulle, Antonioz, a reconnu dans les militants Carmonde des résistants, comme elle, des résistants à tout déni d'humanité. Résister à l'humiliation, résister au sentiment d'infériorité, tout ce qui vous rabaisse.
N'est pas pauvre qui le veut, disait le père Joseph, qui lui avait l'expérience de la misère. Il allait à 5 ans à la soupe populaire pour sa mère, et ça lui mettait la rage. Il était devenu séminariste, curé dans l'Aisne, plus ou moins heureux, et envoyé par son évêque dans un bidonville issu d'Emmaüs à Noisy-le-Grand, et il a dit à ce moment-là, j'ai retrouvé les miens.
Oui, c'est ça. En fait, les gens qui sont dans la misère, on les traitait à l'époque de cas social, on les traite toujours de cas social. On dit à chacun, vous êtes un cas, ça n'a pas de sens que vous vivez. Ça n'a pas de sens historique. On est dans une mission d'histoire. On n'a jamais su trouver les plus pauvres dans l'histoire. Et en réalité, en retrouvant ce collectif, le Père Joseph a énoncé l'idée qu'on était un peuple. Qu'ils étaient un peuple, parce que moi-même, j'en fais pas partie. Et du coup, venait avec cette notion de peuple la possibilité d'être citoyen et de rentrer dans le politique.
Jusqu'ici, on a entendu une archive de la radio. Maintenant, ce sont des archives issues d'ATD Carmonde, avec une maison de l'histoire. ATD a recensé des écrits, des photographies, des sons. Des photographies qui ne sont pas comme les autres photographies des bidonvilles.
Oui. Quand on a inauguré cette maison à Bayeux en France avec 3 millions de clichés, la responsable des archives d'Île-de-France a visité, elle était présente, elle disait c'est étonnant parce que vos photos, comparées aux nôtres, on a l'impression que nos photos sont des photos volées, prises de très loin, au téléobjectif, par des gens qui ont peur. Vos photos sont des photos de partage, des photos consenties. Donc ce sont des archives écrites par les pauvres et pas écrites sur les pauvres.
Alors gros plan sur les sons des militants.
Si on ne va pas devant, ils ne verront pas à nous. Si on ne continue pas à lutter, c'est pas eux qui vont lutter pour nous. Hein.
On se soutenait entre nous, mais on savait aussi que c'était pas la solution. Mais la solution, c'était vraiment pouvoir s'extérioriser. Et comme disait Yacoud, disons le besoin de se faire des amis vers l'extérieur. Et je crois que ces amis-là, peut-être aussi aujourd'hui, moi je les ai découverts entre autres avec les volontaires. Des volontaires avec qui on a commencé à évoluer. Yacoud, elle était au pivot culturel à cette époque-là, hein, avec des alliés, tout ça, qui venaient faire, disons, la bibliothèque de rue ou alors bibliothèque à l'intérieur. Et ça, il a fallu des années et des années pour pouvoir se dire, eh bien, est-ce que demain, je vais pouvoir aller vers l'extérieur, habiter peut-être à l'extérieur ?
Donc la responsabilité, ce sont les militants qui la prennent. Vous avez reconnu la voix ?
Oui, c'est Georges Jarling dont je parlais à l'instant.
Et il faut néanmoins des alliés. Et on a entendu le mot « volontaire ».
Alors voilà, ça a commencé par des militants carmondes, parce que le père Joseph Wresinski a créé une association avec les gens du camp, mais cette association a été refusée, parce que la préfecture a dit qu'est-ce que c'est que cette association, où les gens n'ont pas une adresse.
Il y a des prix de justice même,
disaient les autorités. Il y a des prix de justice, il y a une adresse qui n'était pas très claire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de boîte aux lettres. Donc, le père Joseph s'est tourné vers des gens qui avaient un peu de crédibilité. D'abord, il y a eu le directeur d'une usine d'aviation, pour juste permettre aux plus pauvres d'avoir une vie citoyenne et politique, il fallait que d'autres mettent leur poids, leur crédibilité. Ça, c'est la grandeur des alliés, c'est de comprendre qu'ils ne sont pas les premiers dans le combat, qu'ils rejoignent un combat qui leur préexiste. Ça n'a pas de rapport pratiquement avec tout ce qui est humanitaire où on aide les gens à survivre. Là, ça a à voir avec soutenir les gens dans leur combat.
Geneviève de Gaulle a été la deuxième présidente, c'était une alliée, mais elle était dans l'écart, et c'est dans l'écart social d'ailleurs que naissait sa possibilité de rapprocher les extrêmes.
Absolument, et elle a eu une grandeur aussi, c'était d'être compagnon avec le père Joseph Wresinski, c'était pas facile.
Parce qu'il était extravagant.
Il était, je dirais pas extravagant, mais il se mettait dans des rogues, moi je ne comprenais pas pourquoi. Et des choses, les gens qui ont vécu l'humiliation sont un peu écorchés, ils ont un sixième sens pour le mépris, pour la supériorité. Et une émission de télé où quelqu'un avait téléphoné pour dire « moi je veux bien prendre une petite famille de chez vous, mais il faut qu'elle soit bien propre », il s'était fâché comme tout. Après il n'était plus invité sur les plateaux. Claude Sirion lui disait qu'il était craint. Et donc Geneviève de Gaulle a fait partie de ces gens qui ont cheminé avec lui et qui l'ont aidé parfois à s'apaiser, parfois lui dire non, là vous allez tout casser si vous énervez, et à faire alliance pour que ce projet de l'égalité humaine, qui est quand même pas étranger à vous, à moi ou à qui que ce soit compris, qu'on comprenne que ceux qui sont les plus pauvres peuvent apporter ça à la société, ce respect absolu des personnes, de chaque personne.
À la mutualité, pour le 20e anniversaire en 1977, Geneviève de Gaulle est présidente depuis 1964, on voit à égalité dans les plateaux de la Balance, Alvin DeVos, qu'on va entendre dans un instant, diplomate d'origine, présidente du mouvement international, et puis une militante anonyme au départ.
La délégation française vous parle.
Nous, famille du Quart-Monde, nous qui depuis toujours habitons les logements les plus insalubres, nous à qui on reproche nos enfants parce qu'ils coûtent soi-disant trop cher à l'État, nous à qui on enlève les enfants pour les confier à d'autres, nous dont les enfants ne trouvent pas leur place à l'école, nous à qui on refuse le travail ou à qui l'on offre les salaires les plus bas, nous qui ne mangeons pas toujours à notre faim, nous qui mourons le plus souvent avant l'âge moyen, nous qu'on méprise, qu'on n'écoute pas, qu'on refuse de reconnaître, nous qui pourtant avons le courage de vivre et le respect de la vie. Nous avons découvert que nous sommes un peuple. Nous nous réunissons pour apprendre à parler, car nous n'avons pas honte d'apprendre. Nous nous réunissons pour exiger d'être entendus et reconnus par tout le monde. Nous avons besoin qu'on nous fasse confiance. Nous ne voulons plus être abaissés. Nous voulons les moyens de vivre en famille, de vivre humainement dans des logements décents. Nous voulons que nos enfants aient toutes leurs chances à l'école, qu'ils aient le bonheur de se faire une vie meilleure que la nôtre. Notre combat leur a fait découvrir qu'ils y ont droit, mais qu'ils n'oublient jamais leur peuple, qu'ils aident ceux qui souffrent, qu'ils puissent comprendre les malheureux et combattre avec eux. À vous tous qui êtes venus ce soir, nous demandons votre solidarité dans notre combat.
Nous avions commencé ce tour de table par le témoignage d'une militante. Nous le terminerons, si vous le voulez bien, par le témoignage d'une autre militante. Et je vais demander à Evelyn DeVos de nous donner le sien, témoignage d'une femme militante.
Il y a 18 ans, en tant que femme, avec d'autres femmes militantes ATD, nous nous sommes engagées ensemble, nous nous sommes alliées aux femmes d'abord du camp de Noisy-le-Grand et puis ensuite aux femmes, à toutes les femmes du quart monde en France, en Europe et dans le monde entier. 18 ans d'une alliance et d'un combat politique. Et Marie, nous n'avons jamais utilisé d'autres mots que vous-même. Et ceux qui nous ont écoutés, nous les avons poussés à apprendre le langage, à apprendre les mots de la réalité de votre vie. De votre vie et de vos cités sous-prolétariennes. Car c'est cela la participation, c'est cela la représentation politique. Avoir le droit d'utiliser les mots simples et justes, c'est-à-dire aussi les idées simples et justes de la réalité de la vie des gens. La participation politique, bien sûr, c'est de parler juste, mais ce n'est pas de se voir embrigadé et de se voir obligé à utiliser des paroles et à passer par les idées des autres.
Vous y étiez, Bruno Tardieu, en 1977, à la Mutualité. Votre expérience d'ATD est déjà très longue. Un échange de mots et d'idées qui ne soit pas un échange inégal.
C'est un défi énorme, parce que le langage a été forgé par des milieux comme les miens. Je suis fier de mon milieu, intellectuel, bourgeois, qui a facilement la parole. Mais les très pauvres n'ont fait que subir des étiquettes. C'est pas eux qui ont choisi ces mots-là. Et en fait, les mots portent beaucoup de mépris en eux. On parlait du mot « cassos » qui est revenu en force ces temps derniers.
Cas social.
On utilise énormément de mots et d'idées qui, en fait, sous-entendent que les plus pauvres sont des poids, sont pas intelligents et parfois même sont néfastes. Et donc, dans l'histoire, on voit ça, c'est très, très ancien. Et je pense que c'est ça qui profondément a fait que Geneviève de Gaulle s'est reconnue dans les gens très pauvres. C'est ce refus absolument du mépris humain et l'affirmation de l'égale dignité. Et ça passe par le vocabulaire, ça passe par s'apprendre les uns les autres. Moi, j'ai beaucoup appris des gens défavorisés que je pouvais les blesser sans m'en rendre compte.
Et ne s'ils pas avaient en pas rester l'espace, aux apparences.
Ouais.
Je vous arrête un instant parce que c'est notre tradition, même si on donne des sons beaucoup plus longs aujourd'hui, de faire entendre une chanson. Et celle-ci, vous ne la connaissez pas, Bruno Tardieu. Je peux vous dire qu'elle date de l'automne 1944, qu'elle n'a été représentée dans le cadre d'une opérette en public qu'une fois au Châtelet en 2007.
La marche de l'histoire.
Ce que l'on dit.
France Inter.
Vous oubliez quelque chose, monsieur le naturaliste.
Oh, c'était pas dans mon habitude.
Jean Lebrun.
Bruno Tardieu, au moment de la panthéonisation de Geneviève de Gaulle et de Germaine Tillon, on entendait l'opérette qu'a composée Germaine Tillon pour ses amis détenus, faire Furtwängler aux enfers, à Ravensbrück en 1944. Geneviève de Gaulle en était. Les apparences sont contre les militants d'ATD, Carmonde.
Oui, et contre les gens qui vivent la misère à travers le monde. Donc en fait, les gens sont jugés et dès l'enfance, les gens sentent que leurs parents ne sont pas respectés. Et j'ai découvert le 17 novembre 1977, du haut de mes 19 ans, que les gens employaient beaucoup le mot d'honneur. Moi, j'avais toujours grandi dans l'honneur, je ne voyais même pas pourquoi il fallait le nommer. Et en fait, retrouver l'honneur, retrouver le fait d'être regardé haut, d'être regardé à égalité des yeux, c'est quelque chose qui est indispensable avant toute politique. C'est là où Geneviève de Gaulle parle de la fraternité comme réponse au mépris.
1959, un camion emmène avec des policiers une femme et ses enfants de Noisy-le-Grand. Les policiers ont fait croire que le mari était blessé, attendait la femme à l'hôpital. Et en fait, le commissariat a enlevé les enfants à la femme. Ça a été un des premiers témoignages qu'a recueilli Geneviève de Gaulle à Noisy. Sur le thème, justement, des autorités et des parents, les autorités scolaires, Catherine Trottard et Régine Mordel.
Parce que moi, j'étais vraiment dans la pauvreté jusqu'aux oreilles.
Comment vous en êtes sortie ?
Moi, je m'en suis sortie par mes enfants. Je n'ai vécu que pour mes enfants. Il faut se battre. Nous, on se bat. Les autres, il y a des enfants de personnes très bien placées qui n'y arrivent pas non plus. Hein. Mais on ne va rien leur dire à ça. Ça, je regrette. C'est pas les mêmes paroles. Le comportement des institutrices envers un enfant que les parents sont aisés et qui a la même difficulté que l'enfant d'un pauvre. Hein, mais on ne le montre pas pareil. On ne discute pas la même chose. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes paroles, c'est même pas le même regard. Ah ben oui, parce que l'enfant de bien personnes bien placées, on dit, ben oui, ben... C'est embêtant parce qu'il ne t'apprend pas ce qu'on se sert, mais ça viendra peut-être, ou ceci, ou cela. Mais à l'enfant des pauvres, on ne leur dit pas ça. Non, 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 on va dire à ce que là, ben vous savez, là. Puis ça suit toute la famille, hein, vous êtes assurés. Hein. C'est que les écoles, eh bien, ils ne contactent même pas les parents. C'est eux qui ont le monopole avant nous. C'est eux qui choisissent avant nous. C'est pas autre chose, c'est... Ils ont discuté ensemble, et puis ça, puis dès qu'on vous dit, au bout de... C'était 2 mois, 3 mois. On vient vous dire, eh ben oui, mais votre fils, ben ça va pas. Il est toujours tout seul, ou il est toujours seul, il n'apprend pas. Mais c'est au bout de 3 mois. Hein, ça faisait 3 mois que Nicolas avait été à l'école, il était toujours dans son coin, il n'avait pas parlé, pas un mot. Ils sont venus, ils me disent, est-ce qu'il parle votre fils? Je dis, oui, mon fils, il parle. Elle me dit, vous êtes sûr? Je dis, vous ne me prenez pas pour une idiote, non? Je dis, oui, mon fils parle. Effectivement, ça faisait 3 mois, il avait été à l'école. Pas de réponse, et on a attendu 3 mois avant de me le dire. Mais par contre, eux, ils avaient fait toute leur petite enquête, parce que vraiment, ils vont au plus profond des familles. Hein. Ils vont chercher tout ce qu'il y a de plus touchant pour une mère ou même pour un père, parce que le père, ils vont pas chercher sous le père, c'est souvent la mère qui explose. Mais ils savent très bien blesser les parents, jusqu'à un point de dire... On demandait les antécédents, si les parents ne boivent pas, qui demandait aux enfants. Alors, je ne sais pas, si on vous dit qu'un enfant ne parle pas et qu'on leur dit est-ce que ton père et ta mère boivent ou est-ce que ton père et ta mère font ceci ou cela, est-ce qu'un enfant va répondre? À mon avis, je ne pense pas. Il ne va pas répondre. Il va se ramasser dans son cocon, puis terminer. L'assistance sociale, il en faut. Les psychologues, il en faut. Mais il y a deux bases, deux mesures. On ne prend pas les gens pour des imbéciles non plus. Moi, c'est ce que j'ai dit.
Parce qu'habituellement, bon, eux, encore l'école de Kevin, ils vont chercher les gens. Ils arrivent à aller à peu près chercher les gens. Mais dit, on a beau aller les chercher, c'est pas pour autant que les gens ils viennent, quoi. Ils ont sûrement une peur de ne pas être à la hauteur. Ou bon, bah, comme moi, la première fois que je suis allée, hein, je me suis dit, oh là là.
Oui, c'était comment?
Où c'est que je suis tombée? Puis maintenant, j'y vais facilement.
La première fois où je...
Ah oui, la première fois, je me suis dit, où c'est que je suis tombée? Parce que quand j'ai vu les personnes, oui, je me suis dit, oh là là.
Les personnes chez les parents
chez les parents.
Les autres parents.
Ouais. Chez les autres parents, parce que je suis arrivée, j'ai été regardée de la tête aux pieds. Bon, je me suis dit, ça commence bien. T'énerves surtout pas, tu t'installes, tu dis rien. Puis ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres parents qui seraient venus, mais qui auraient fait demi-tour. Quoi. Ils ne seraient pas restés, parce que de la manière que toute l'assemblée a regardé, c'est vrai que je me suis dit, mince. Je reste ou je reste pas. Je dis, t'es arrivé là, t'as franchi le pas, tu continues. C'était peut-être mon imagination, hein, c'est fort possible aussi. Mais je voyais bien, moi, ma question déjà ne serait-ce que d'habillement, des choses comme ça. L'habillement, la façon de parler. Parce que nous, on a quand même tendance à parler notre langage. Je me suis dit, je veux pas parler comme eux, ils vont parler. Quoi. Eux, ils vont mieux parler que moi, ça va être mieux compris, ça va être mieux. Et puis finalement, non. Je suis sortie quand même assez satisfaite, parce que je me suis dit, j'ai réussi quelque chose. Chose que je n'aurais jamais pensé réussir.
L'apprentissage de la parole, jusqu'à pouvoir parler au président de la République sans timidité. Bruno Tardieu.
Ce qui l'explique très bien, c'est qu'en fait, le regard des autres vous fait taire. Et ça aussi, c'est quelque chose que Geneviève de Gaulle pouvait comprendre, parce qu'au retour des camps, ils ne pouvaient pas parler. On ne se rend pas compte à quel point, quand une violence touche l'intégrité des personnes... Les personnes n'arrivent pas à parler parce qu'elles ont honte de ce qu'elles vivent. C'est la double peine. Les gens vivent quelque chose de très difficile et en plus, elles ont honte de ce qu'elles vivent. Et nous autres qui n'avons pas vécu ça, sommes tellement embarrassés par cette situation dont on perçoit l'inhumanité qu'on se précipite à faire des choses, à parler, à remplir les silences. Et les gens se taisent. Et du coup, tout ce que les gens arrivent à dire là, la plupart des gens très pauvres que vous pouvez croiser dans l'histoire ou aujourd'hui, en fait, n'arrivent pas à le formuler. C'est ça la chance peut-être d'avoir eu une Geneviève de Gaulle avec un père Brzezinski en France, c'est ouvrir l'espace de la parole et c'est le fait de sortir du silence et de sortir de ce mépris qui fait qu'on peut plus participer à la politique et qui fait que tout le monde, vous savez, on dit les absents ont toujours tort. Et quand les absents ont toujours tort, c'est bien parce qu'ils n'ont pas pu dire leur version de l'histoire. C'est pour ça que la culture est tellement importante aussi, parce qu'elle permet, par des grandes œuvres, par la beauté, par la musique, de trouver autre chose que des mots pour exprimer sa profonde humanité.
Partout, des militants se mobilisent pour ce combat ignoré. Partie du grand combat des familles sous-prolétaires, dont beaucoup sont issus.
Les jeunes... Ah oui, on voudrait aussi que les jeunes puissent apprendre un métier. On voudrait que nos enfants aient un accès à l'informatique, qu'ils sachent lire et compter avant de se servir d'une calculatrice. Que les enfants respectent les parents et que les parents respectent leurs enfants.
Un peuple parle pendant que Geneviève de Gaulle-Antoniose, avec trois autres, va être portée cet après-midi au Panthéon. Merci à vous, Bruno Tardieu. J'ai donné le titre de votre prochain livre à la découverte. Merci à Lola Jordan qui a préparé cette émission avec les archives d'ATD à Bayet en France. La réalisation, Stéphane Ronxin. La technique, Enzo Labori.
Merci.